Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 février, j'allais dire 2 février, pas du tout. Allez, on avance d'une semaine, 9 février, et je suis en compagnie d'Andy, comme tous les jours. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ouais, ça va parfaitement.
Ouais, on est prêt pour une nouvelle émission, bien sûr. Nouvelle émission où on va parler de cette fusion, alors, ou en tout cas de cette nouvelle création, de ce grand rapprochement entre deux grandes associations autour de l'hébergement et de l'accompagnement social à Laval, l'association Revivre et l'association Les Deux Rives, avec son directeur Jean-François Rossignol, qui va nous expliquer quels sont les avantages, en tout cas, de cette fusion d'ici quelques mois. Et puis, on va parler, en tout cas, sauvetage des nouveaux animaux de compagnie, les NAC, vous savez, tout ce qui est reptiles, oiseaux, en tout cas des animaux qui changent un peu des chats et des chiens. Et une nouvelle association s'est créée près d'Evron pour les secourir et faire de la sensibilisation autour de leurs soins. On entendra aussi la chronique du FC Que Choisir qui va vous alerter sur les fraudes à la carte bancaire. Et puis on poursuit là aussi notre feuilleton sur les bonnes idées d'animation et d'activité pendant les vacances avec un espace de jeu dédié aux 0-3 ans. Mais vous le savez, d'abord, pour commencer, on fait un point sur l'actualité avec toi Andy et la Mayenne qui est le département le plus fibré de l'Ouest.
Avec près de 3 logements sur 4, selon le dernier observatoire des déploiements fibres publié par l'ARCEP, la fibre est présente dans chacune des 232 communes du projet Mayenne Fibre, c'est-à-dire tout le département sauf Laval-Aglo et Château-Gontier. Deuxième étape désormais, à partir de chaque armoire, il faut raccorder logements et entreprises. Près de 80 000 d'entre eux sont d'ores et déjà éligibles. Pour savoir où en est votre commune, vous pouvez consulter le site cartefibre.arcep.fr.
Jean Lassalle répond à l'Association des citoyens contre les déserts médicaux.
Créée en Mayenne, l'association a envoyé un courrier à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Jean Lassalle est donc le premier à avoir répondu. Il préconise la nécessité d'avoir un hôpital à moins de 40 minutes de route partout sur le territoire, l'ouverture de 20 000 lits avec le personnel soignant nécessaire et le recrutement de 100 000 infirmières et aides-soignantes en 5 ans.
La Mayenne compte sur les 7 derniers jours 8767 nouveaux cas positifs.
Et oui Marie, et au niveau du taux de positivité, d'après les chiffres publiés par l'ARS, nous sommes le mauvais élève de la région. Avec un taux de positivité à 44,6%, nous sommes clairement au-dessus de la moyenne régionale qui se tient à 40%. Malgré cela, nous avons dans notre département seulement 8% des lits de réanimation qui sont occupés, ce qui représente 2 lits occupés en Mayenne pour 96 hospitalisations.
Et puis un tout autre sujet Andy, le vote pour le nom du nouveau lieu culturel à Laval est enfin clos.
En effet, l'ancien bâtiment du Crédit Foncier qui est destiné à accueillir le pôle lavallois du Conservatoire à rayonnement départemental et ses très nombreuses activités se nommera le 40. Après plus d'un mois de vote, les 1500 participants ont voté à 50% pour ce nom, alors que les autres noms proposés, la Villa elle, a obtenu 34% et le Crédit Foncier à peine 16%. Florian Berco, le maire de Laval, s'exprime sur le lieu. Le 40 n'est pas qu'un lieu de culture, c'est un lieu pour tous et par tous qui doit se nourrir des attentes de tous, les habitants de l'agglomération, mais aussi s'adapter aux utilisations qui en seront faites.
Et là, on part du côté du pays de Cran avec le centre aquatique L'Odyssée qui passe en mode Saint-Valentin.
Il propose une animation spéciale pour les couples axés sur le bien-être et sur l'activité physique, co-construite avec un partenariat local. L'offre duo comprend une offre avec une entrée achetée, une entrée offerte, l'accès aux deux espaces du centre aquatique et enfin un duo partenariat entre l'Odyssée et Flore et Nature qui a créé une ambiance romantique seulement pour cette occasion et qui propose une remise de 5% dans leur magasin. Pour réserver, il vous suffit d'appeler au 02 52 21 02 90 ou alors de vous rendre directement à l'accueil de l'Odyssée.
Et une médaille d'argent de plus pour nos Français à Pékin.
Et c'est Chloé Trespeuch qui décroche la deuxième position sur l'épreuve de snowboard cross, ce qui porte la France à 6 médailles en tout, avec une en or et 5 en argent. La France se place en tant que 11e nation.
11e nation, pour l'instant évidemment. En septembre prochain, les associations Revivre et Les Deux Rives n'en formeront plus qu'une. Acteurs du logement d'urgence pour les sans-abri, les jeunes, les femmes battues, l'association Revivre va bientôt fusionner en une troisième association avec celle des Deux Rives, qui s'occupe de l'accompagnement autour du logement, de la santé et l'insertion professionnelle. un rapprochement naturel qui permettra plus d'efficacité, d'après Jean-François Rossignol, directeur de l'association Les Deux Rives.
C'est l'association Revive, l'association Les Deux Rives, deux anciennes associations voilà, qui sont nées en 69-74 de mémoire, et donc ils vont se regrouper cette année, et donc on va créer une troisième association pour faire disparaître ces deux associations-là. Concrètement, pour nos partenaires, ça n'a pas changé grand-chose, hein, voilà, sauf qu'il y aura une nouvelle identité, un nouveau logo, voilà, et surtout un travail qui sera complémentaire entre ces deux associations-là. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de liens complémentaires entre l'une et l'autre, et je pense que cette mise en commun va certainement être au bénéfice de nos bénéficiaires, et puis travailler encore mieux, et d'avoir une capacité encore de mieux les accueillir, de mieux les accompagner, donc c'est vraiment un beau projet, et on est super contents de cette fusion-création, voilà. Et on fait tout un travail d'accompagnement aussi, de co-construire avec l'ensemble des salariés. Parce qu'on veut que tout le monde soit acteur dans ce changement-là. Donc chaque salarié est concerné. On travaille ensemble, on co-construit, on avance à petits pas aussi. On a mis des groupes de travail au plus près des salariés pour que chacun puisse avoir son mot à dire dans cette future fusion-création. Fin septembre, il y aura une assemblée générale extraordinaire qui va dissoudre les deux associations pour en créer une troisième. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas le nom parce qu'on fait appel aussi à des groupes de travail. Donc c'est les choses au fur et à mesure. On a une feuille de route qui est tracée avec l'ensemble des salariés pour que chacun puisse se reconnaître dans cette nouvelle association bientôt. On veut ça aussi faire ça progressivement, on ne veut pas aller plus vite. Donc on va prendre le temps de travailler. On a pris déjà l'année dernière, c'était un temps de préparatoire. Là, cette année, le temps on passe à l'action. Donc on a une feuille de route très claire, en tout cas, pour passer, arriver en octobre, être capable de fusionner, être capable que les salariés des deux associations se connaissent, être capable de se reconnaître dans cette future association. Donc voilà, ça demande du temps, ça demande des groupes de travail, ça demande beaucoup de temps d'échange. Voilà, donc on va prendre le temps de le faire pour ça déjà. Pour le public, ce qu'on espère que ça va changer, c'est encore plus de qualifications, c'est encore plus en capacité de mieux les accompagner, c'est encore plus de liens entre professionnels, donc une meilleure prise en charge, en tout cas au final, pour les bénéficiaires, parce qu'on fait ça pour les bénéficiaires.
On ne connaît pas encore le nom de cette nouvelle entité qui verra officiellement le jour donc au mois d'octobre prochain.
Et on va passer à l'interview du jour avec l'association Linné qui prennent soin des nouveaux animaux de compagnie. Ce sera dans quelques instants après Poterie de Hank Williams.
Pottery, Hank Williams dans la JT du local sur l'autre radio. On va parler de cette nouvelle association qui vient de se créer il y a quelques mois et qui prend soin des cochons d'Inde, des iguanes et même des boucs. Et oui, Diane Voyer et Victor Ronzin ont créé il y a 3 mois l'association Linné à Évron, en hommage au naturaliste Carl von Linné, une association qui accueille les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, mais qui agit aussi pour sensibiliser aux soins de ces NAC et éviter leur abandon, des actions complémentaires de ce que peuvent faire déjà la SPA ou le centre de sauvegarde de Château-Gontier.
Donc je m'appelle Diane, je suis donc coprésidente avec monsieur, tous les deux fondateurs de l'association. Je travaille en ce moment à la SPA de Laval. J'ai travaillé dans pas mal de choses liées aux animaux, notamment des centres de soins à la faune sauvage, des parcs zoologiques. Donc voilà, j'ai une vision assez globale du milieu. J'ai fait pas mal de choses en lien avec les animaux, justement.
Moi, je m'appelle Victor, j'ai 25 ans, je suis professeur à Évron et j'ai appris en quelque sorte le métier du fait de Diane sur le tas parce que je n'ai qu'une formation pour ça.
Et donc, vous avez tous les deux décidé de créer cette association Linné il y a déjà un petit peu plus de 2 mois. Comment vous est venue cette idée déjà et pourquoi vous engagez dans un tel projet ?
Non, en fait, c'est quelque chose qu'on fait du coup officieusement depuis déjà maintenant 6 ans peut-être. Simplement, on n'était encore pas sûr de où nous allions habiter puisque monsieur est professeur, on attendait sa mutation en fait tout simplement. Donc voilà, là c'est le déménagement qui a déclenché la création de l'association. Mais c'est quelque chose qu'on fait effectivement depuis pas mal de temps. Le besoin s'en ressent beaucoup en fait. Il y a très peu de choses pour... ce type d'animaux qui existent. Donc voilà, on s'en est rendu compte en fait au fur et à mesure, en étant dans le milieu, on s'est dirigé faire ce dont il y avait besoin en fait, tout simplement.
Quand vous dites ce type d'animaux, vous pensez à quoi en particulier ?
Donc nous sommes spécialisés dans ce qui s'appelle les nouveaux animaux de compagnie, donc les NAC. Donc ça va être les oiseaux, les reptiles et les petits mammifères de type lapin, furet, cochon d'Inde, voilà, choses comme ça, qui sont des animaux encore assez mal connus, mais qui sont très à la mode. Donc, il y a beaucoup de besoins de prise en charge, notamment puisqu'il y a beaucoup d'abandon, car les gens ne connaissent pas très bien. Et il y a aussi beaucoup besoin de sensibilisation, justement, parce que voilà, les gens ne connaissent pas très bien leurs besoins et se lancent en se disant que c'est un animal qui n'a pas beaucoup de besoins et se rendent compte que si. Voilà.
Selon vous, c'est parce que les gens ne sont pas forcément, en tout cas les propriétaires de ces nouveaux animaux de compagnie, ne sont pas forcément bien informés qu'ils ont tendance, peut-être plus malheureusement, à les abandonner ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les chiens et les chats, c'est quelque chose qui sont des animaux qui vivent avec l'homme depuis plusieurs millénaires, tout de même. Donc on connaît quand même globalement les besoins d'un chien ou d'un chat. Ces nouveaux animaux, justement, on se dit, bon, bah, on le met dans une cage, il fait sa vie. Non, ce ne sont pas des animaux qui peuvent vivre en cage, par exemple. Donc voilà, les gens se font de mauvaises idées sur leurs besoins et sur le temps que ça va leur demander de s'en occuper. Et ils se lancent sans trop connaître. Et du coup, voilà, ça mène à de la maltraitance ou avant, quand les gens s'en rendent compte, à un abandon, justement.
Et il n'y a besoin de, ni diplôme ni rien pour les nouveaux animaux de compagnie. Et les animaleries vendent ça très facilement. Ce n'est pas très cher. Vendre sans se préoccuper des conditions dans lesquelles ils vont vivre, ne donne pas d'indication. Ce sont des vendeurs, donc pas spécialement nécessaire pour eux d'informer les gens correctement. Et donc, les gens se retrouvent avec des animaux à des prix très abordables, etc. Et on n'a pas pris la peine de leur expliquer comment s'en occuper.
Vous parlez justement de savoir comment vous en occuper. J'imagine que vous, vous êtes aussi renseigné, peut-être formé justement pour pouvoir bien s'occuper de ces nouveaux animaux de compagnie.
Oui, effectivement, on ne se lance pas comme ça sans rien. S'occuper de ces animaux-là demande effectivement pas mal d'expérience et il y a également des formations. Donc moi, je suis titulaire de ce qui s'appelle la CACED, qui est une certification d'État en fait pour les animaux domestiques. Voilà, une formation que j'ai passée l'année dernière. Avec les animaux, il n'existe pas énormément de certificats et de formations, à part bien sûr quand on est vétérinaire, mais on n'est pas là non plus. Donc c'est surtout une expérience que j'ai, voilà, encore une fois, sur le tas, dans beaucoup de structures différentes. Donc évidemment, on se renseigne énormément puisque c'est mis à jour très régulièrement, que avec les avancées scientifiques aussi, on apprend toujours des choses, donc voilà, on se tient au goût du jour.
Et alors là, pour l'instant, pour les débuts de l'association, quelles sont vos principales activités? Est-ce que c'est surtout justement recueillir ces animaux qui ont été abandonnés, ou bien aller plutôt vers la sensibilisation pour peut-être éviter justement qu'il y ait autant d'abandon, ou les deux, peut-être, tout simplement?
Tout à fait, les deux, effectivement, puisque l'un évite l'autre. Donc, on cherche surtout à faire de la sensibilisation, de l'éducation, voilà, sur ces choses-là. Et bien sûr, on est déjà opérationnel pour accueillir ces animaux qui sont déjà abandonnés. Voilà, parce que quand les gens veulent les abandonner, on ne va pas dire non. C'est un petit peu trop tard pour rattraper la chose, mais voilà.
Voilà, et donc, pour la sensibilisation, on passe dans les écoles, dans les manifestations publiques. Donc,
fête de quartier.
Si les gens veulent nous faire confiance pour discuter de ça, on sera ravis de venir. Soit dans les fêtes associatives, soit dans les écoles pour les jeunes publics, etc.
Là, les animaux qui sont abandonnés, donc vous dites être prêt à les accueillir. Est-ce que vous avez déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire une structure et tout le matériel qu'il faut pour les accueillir?
Tout à fait. Alors du coup, on est déjà opérationnel pour tous les petits gabarits. Donc en fait, les oiseaux, les reptiles, les petits mammifères, sans problème. Étant donné que ce sont surtout des animaux qui vont être en cage la nuit, puis la journée être en liberté dans la maison. C'est comme ça qu'on les accueille normalement. Donc ça, pour le coup, on peut déjà le faire. Et nous sommes en recherche actuellement donc de locaux qui correspondent à l'ouverture d'un refuge. Donc, qui nous permettrait d'accueillir également des équidés, des chevaux, des ânes et animaux de ferme, choses comme ça. Voilà. Donc ça, pour le coup, on ne peut pas encore, parce qu'en maison, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour tous ces petits animaux-là, nous avons déjà, bien entendu, tout ce qu'il faut. Bien sûr, les dons sont toujours accueillis, mais voilà, on a déjà un nombre de cages et de volières suffisants pour ces animaux-là.
Quels animaux et dont avez-vous accueilli, alors sans forcément tous les citer peut-être, mais donner quelques exemples en tout cas de certains?
On a déjà accueilli donc des oiseaux, des petits reptiles et des petits mammifères. On a fait de tout. On a eu des cochons d'Inde, des pogonas qui s'appellent, c'est une sorte de petit reptile.
Des iguanes.
Ainsi que divers types de perruches. Mais qui du coup ne restent pas chez nous. Le but, c'est de les accueillir, mais de les faire réadopter ensuite. C'est de leur trouver une nouvelle famille qui, elle, saura s'en occuper et les accueillir de bonne manière. Donc c'est le cas, du coup, ils sont venus puis repartis. Et on a accueilli également plusieurs goélands. Donc là, pour le coup, ce sont des animaux sauvages. Donc moi, personnellement, je ne suis pas habilitée à prendre en charge la faune sauvage d'un point de vue vétérinaire. Donc en fait, on les prend en charge pour les transférer vers les structures qui sont, elles, habilitées. On a un partenariat en fait avec le Refuge de l'Arche à Château-Gontier, qui est justement un centre de soins à la faune sauvage. Donc nous, voilà, moi j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des centres de soins, donc je connais les premiers soins, les choses comme ça. Donc on peut tout à fait les prendre en charge pour les acheminer au plus vite, bien sûr. Mais voilà, c'est déjà quelque chose qui est possible également. Pas hésiter à faire appel à nous dans ces cas-là.
Les animaux que vous aviez à l'adoption, là, ont tous trouvé une nouvelle famille d'accueil, ou il y en a d'autres qui peinent peut-être plus depuis quelques semaines à trouver une autre famille?
Alors pour l'instant, du coup, nous avons eu des animaux, entre guillemets, un peu plus faciles à placer. Donc effectivement, on a trouvé assez rapidement. Et là, par exemple, on s'apprête à prendre en charge, donc pour le coup, comme je vous disais, on n'est pas encore bon pour les animaux de ferme, mais on va le prendre en charge administrativement. Il va être accueilli en fait par une famille d'accueil. Donc ce sera un jeune bouc, donc qui lui va être à l'adoption dès la semaine prochaine, voilà, qui cherche sa famille pour la vie.
Donc si quelqu'un veut un bouc, voilà. Vous êtes les bienvenus, vous écoutez la bonne émission.
Et c'était justement ma prochaine question, c'est-à-dire que si on veut se renseigner sur les animaux qui sont à l'adoption, on peut aller sur votre site, vos réseaux sociaux, comment ça fonctionne?
Tout à fait, on a effectivement un site internet, une page Facebook. Dans les deux cas, on met effectivement des photos et le plus d'informations possible sur les animaux à l'adoption, en sachant que voilà, nous, on demandera forcément quelques informations sur les conditions d'accueil de l'animal, puisque le but, ça va être de le placer dans une bonne famille. Mais voilà, si quelqu'un est intéressé pour adopter, faut pas hésiter à regarder et à nous appeler, de toute façon, on saura renseigner.
J'imagine que ça peut être aussi assez chronophage par rapport à vos autres activités. C'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur aussi depuis longtemps.
Tout à fait. Alors, disons que monsieur s'est un petit peu laissé entraîner par le
Absorbé.
mouvement. Moi, j'ai toujours été passionnée d'animaux. Voilà, j'ai commencé très jeune à m'intéresser à faire du bénévolat dans des refuges, des choses comme ça. Donc, voilà, c'était inévitable, une activité de ce genre. Donc, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, je fais en sorte de pouvoir y consacrer le plus de temps possible, tout en étant évidemment salariée, puisqu'on ne peut pas vivre de l'activité d'un refuge, ça va sans dire. C'est pourquoi tous les dons sont toujours tout à fait bien appréciés.
Mais il ne faut pas être passionné par le temps libre pour faire ça.
C'est sûr.
Comment est-ce qu'on peut s'occuper aussi bien d'un bouc que, j'ai oublié le nom, mais d'un iguane que d'un autre oiseau, parce que j'imagine que c'est forcément des animaux qui nécessitent des soins différents aussi.
Effectivement, ce sont des conditions de vie très différentes. On va avoir par exemple l'iguane qui, lui, doit être dans un terrarium avec une chaleur avoisinant les 40 degrés au point chaud, avec le moins de manipulation possible. À côté, on va avoir des oiseaux avec lesquels il faut limiter le plus possible le stress, mais qui ont besoin de perchoirs. Enfin voilà, chacun a ses petites habitudes de vie qu'il faut respecter. Donc c'est pour ça que c'est très important de se renseigner avant. On ne peut pas vraiment faire de généralité quand il s'agit des animaux, de se dire oui, bah, de manière générale, de toute façon, il a besoin de ça. Alors, on peut généraliser en disant qu'ils ont tous besoin de boire de l'eau et de se nourrir, mais sinon, après le reste, ça change tout le temps.
Et quel conseil justement vous pouvez donner à peut-être certains auditeurs qui se disent moi aussi j'aimerais bien adopter un de ces nouveaux animaux de compagnie, mais je ne m'y connais pas forcément.
Ah, effectivement, on est bien entendu là pour répondre à toute question. Mais déjà, dans un premier temps, je conseillerais de ne pas hésiter à s'adresser à un vétérinaire, qui sont bien entendu de bons conseils également. Je donnerais comme conseil aussi d'éviter d'acheter en animalerie et de plutôt adopter, puisqu'il y a beaucoup d'associations comme la nôtre qui ont des animaux à l'adoption qui attendent une nouvelle famille. Et ça évite aussi de, voilà, d'encourager l'idée de l'animal étant dans le commerce. Voilà, dans les animaleries, ce ne sont pas forcément des très bonnes conditions de vie aussi, donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter.
Un des bons réflexes à avoir, c'est d'essayer de savoir comment les animaux vivent de façon sauvage.
Oui, c'est
Donc,
ça.
comment cet animal vit quand il a une vie dans la nature.
Essayer de reproduire ça à la maison,
Il faut
effectivement.
essayer de ramener le plus possible ce genre de choses. Par exemple, des choses assez évidentes qu'on ne sait pas. Le pogona, c'est un animal qui vit en
Australie.
Australie et donc on se rend compte qu'il faut qu'il fasse chaud, mais ce dont on pense pas forcément, c'est que la nuit, par contre, il fait très froid. Donc il faut que la température baisse énormément, pratiquement 20-25 degrés entre le jour et la nuit.
Si quelqu'un trouve un animal sauvage blessé, le mettre en carton, ne pas le manipuler, le mettre au calme et au chaud, et appeler au plus vite donc une association comme nous ou directement un centre de soins à la faune sauvage. Ça peut être important de dire ça, puisque les gens peuvent se trouver démunis, vouloir par exemple nourrir l'animal. Et dans ces cas-là, on peut faire plus de mal que de bien. Donc vraiment, voilà. On le met au calme, on n'y touche plus.
Et si vous voulez leur poser des questions ou tout simplement les contacter par mail, vous pouvez le faire à l'adresse association-liné avec deux n @laposte.net ou par téléphone au 06 03 92 39 06. Et sur la page Facebook Association Liné, vous retrouverez là aussi tous les animaux prêts à être adoptés.
Et tout de suite, comme tous les mercredis, on va écouter la chronique UFC Que choisir. Mais juste avant, on va rester dans le thème des cochons d'Inde avec Guinea Pig de Girls in Hawaii.
I wake up in a cave, you're by my side. I see the chandeliers gleam, a thousand lights. Picture on the wall of 96, you and I just smiling. Like monkeys. So I go swimming to wake me up. I'm fighting with no shape, no conscience. I look across the room and see the girl. Looks like a Greek old-fashioned.
just wait outside, I'll be there. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden sky. Infinite desire, you show me now. Where are the smiles and laughs again? Here again, with you aside, I only see the black beauty mark on the back. Picture on the wall of 86, there's only me but much younger, straight on the pier. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden sky. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again? You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden sky. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again?
C'était Girls in Hawaii dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Effectivement, on va écouter cette nouvelle chronique du FC Que Choisir en Mayenne, dédiée aujourd'hui, attention, écoutez bien, aux fraudes à la carte bancaire. Jean-Michel Guinaudeau, vous êtes donc le président du FC Que Choisir de la Mayenne et vous souhaitez cette semaine attirer l'attention sur les fraudes à la carte bancaire.
Oui, en général, le mois de janvier qu'on vient de passer nous amène son lot de litiges liés aux achats de fin d'année réalisés sur Internet. Mais cette année, ce sont les litiges liés à des prélèvements bancaires non sollicités qui reviennent fréquemment. Autrement dit, le consommateur s'aperçoit, à la lecture de son relevé bancaire, qu'il a été débité d'une somme pour un achat qu'il n'a pas fait ou au profit d'une entreprise qu'il ne connaît pas.
Comment cela peut-il se faire ?
Alors, pour certains, l'explication est assez simple. Il s'agit d'un abonnement validé avec un achat. Certains vendeurs, pour attirer le client, proposent de très fortes remises contre un abonnement mensuel, cet abonnement étant remboursé en cas d'achat d'un certain montant. Dans le meilleur des cas, il faut cliquer pour s'abonner, mais dans d'autres cas, cela fait partie des conditions générales de vente et le consommateur, qui ne le lit pas évidemment, est abonné sans le savoir. Dans ce cas-là, la solution est simple, se désabonner. Mais des prélèvements non sollicités peuvent être faits après hameçonnage. C'est-à-dire que le consommateur reçoit un mail ou un SML d'un soi-disant service public l'informant qu'une somme doit être créditée sur son compte et qu'il lui est demandé de transmettre ses informations bancaires. Et la dernière en date concerne un appel ou un SMS indiquant qu'un prélèvement douteux est en cours et demande de transmettre le code envoyé pour stopper l'opération. Et malheureusement, cela valide au profit de l'arnaqueur. Et malgré toutes les alertes, eh bien certains répondent à ces demandes. Mais quand c'est un achat sur un site connu, après un vrai achat, bien reçu celui-là, pour nous, c'est plus mystérieux. Comment un tiers peut-il avoir accès aux informations censées être secrètes ? C'est pour ça que nous appelons ça le piratage du compte. Au mieux, cela s'arrête là. Mais nous avons des cas de véritable siphonnage du compte par prélèvements successifs. Alors, on en est réduit à penser que le consommateur a ouvert une pièce jointe d'un mail ou SMS temps ce qu'on appelle un cheval de Troie, c'est-à-dire un petit programme qui permettra au hacker de s'introduire dans l'ordinateur ou le smartphone pour récupérer les informations sensibles et mal protégées par les mots de passe simplistes. Aujourd'hui, le smartphone contient des informations qui, autrefois, étaient consciencieusement conservées dans le tiroir du bureau.
Alors, que faire si on constate un tel prélèvement ?
Évidemment, prévenir immédiatement sa banque en appelant les numéros qui sont communiqués sur son site officiel et aller au guichet. Et on rappelle quand même que le code de la monétaire et financier oblige les banques à rembourser ce que l'on appelle donc une opération non sollicitée et qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve que le consommateur a commis une négligence grave. Et la jurisprudence a jugé que le fait de répondre à un faux mail bien fait n'était pas une négligence grave. Par contre, le fait de mettre son code secret avec sa carte bancaire est évidemment une négligence grave.
Alors, quel conseil pouvez-vous donner ?
Et tout d'abord, protéger ces informations par des codes confidentiels à ne donner à personne et surtout pas au téléphone ou par mail ou SMS. On ne sait pas qui est au bout. Il est aussi conseillé de désactiver la fonction Wi-Fi quand on est avec beaucoup de monde. Ensuite, évidemment, vérifier régulièrement ses relevés bancaires et de préférence à la maison, dans la rue, au café, au restaurant. Un individu proche de vous peut se connecter à votre appareil et le pirater. Certains, paraît-il, peuvent lire la puce de votre carte bancaire à une distance de quelques mètres et faire un paiement sans contact. Et surtout, ne pas confier ces informations à des proches peu scrupuleux. Et si vous faites un achat sur un site inconnu, toujours prendre le temps de lire les conditions générales de vente.
Merci Jean-Michel Guinaudeau pour ces bons conseils. Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association au cas où nos auditeurs seraient en litige avec un professionnel ?
Eh oui, l'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Et nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne et Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel.
Merci pour cette nouvelle chronique que vous pourrez réécouter sur notre site l'autreradio.fr avant d'en écouter une inédite dans 15 jours. Et on poursuit notre feuilleton cette semaine autour des bonnes idées d'activité pour ces vacances de février avec aujourd'hui un espace de jeu spécialement aménagé pour les 0-3 ans à Laval proposé par la direction Petite Enfance de la ville. Une première matinée a eu lieu hier à la salle du Tertre avec des jeux de motricité, de dextérité, des livres, un moyen pour tester d'autres jeux pour les enfants, de sociabiliser mais aussi d'échanger entre parents et assistantes maternelles. Bonjour, donc je suis Armelle, je suis éducatrice de jeunes enfants. Je fais partie de la direction Petite Enfance de la ville de Laval. J'interviens au niveau des lieux d'accueil enfants-parents, qui sont des espaces de jeu dans 4 espaces pour la ville de Laval, où on accueille des parents avec leurs jeunes enfants de moins de 3 ans. Alors, on est à la salle du Tertre, qui se trouve derrière la polyclinique de Laval. Donc, c'est une grande salle polyvalente qui est mis à notre disposition, nous, aujourd'hui, où on a du matériel qui est stocké. Donc, on a fait un espace motricité, un espace pour les plus petits, des jeux sur table, des jeux un peu plus d'imitation ou des voitures, des jeux de construction, voilà. C'est leur proposer des temps d'éveil, de rencontres, à la fois sortir de la maison pour les parents, parce que des fois, on cherche toujours des idées, et puis de rencontrer d'autres parents. Les tout-petits, qu'ils soient gardés par des assistantes maternelles ou qu'ils soient chez leurs parents, ils ont les mêmes besoins de grimper, de courir, de s'éveiller à plein de choses. Donc on essaie de mettre des activités en place dans ce sens. Alors nous, on est plus sur la proposition de choses installées qu'on peut faire évoluer au cours de la matinée. Mais ils vont vers ce qui les intéresse, où ils en sont rendus dans leur développement et ce qu'ils ont envie sur le moment. C'est vraiment qu'ils passent un moment de jeu entre eux et avec les adultes accompagnants et bienveillants autour. Voilà. Ils jouent plutôt individuellement, mais les uns à côté des autres. Ils apprennent aussi à partager certains jouets, parce que c'est pas toujours facile quand ils n'ont pas l'habitude de côtoyer d'autres tout-petits. Ils se mettent à quatre pattes, ils ont envie aussi de découvrir l'espace pour ceux qui ne marchent pas. Ça donne aussi envie d'aller vers les plus grands. On est là aussi, oui, pour faire en sorte qu'il y ait de l'échange entre eux, parce que les questions de la toute petite enfance, en fait, sont toujours un peu les mêmes, et que c'est important pour eux d'échanger entre eux sur... comment ils ont fait, parce qu'il n'y a pas une seule méthode, c'est en fonction de soi, en fonction de l'enfant qu'on a. Donc l'idée, c'est d'échanger. Nous, on les accompagne aussi avec nos connaissances de la petite enfance sur tout ça. Mais l'important, c'est qu'ils échangent entre eux pour trouver leur propre solution.
Alors, je suis Ambeline, la maman d'Anaël, qui a 3 ans. Voilà. Et donc, on a découvert ce centre pour les vacances. Donc, c'est très agréable pour trouver des nouvelles activités, rencontrer un peu d'autres enfants. Ça change de la maison, des sorties juste en famille. Et puis, il y a plein de nouveaux jeux à découvrir. Donc, c'est beaucoup de sensations différentes aussi pour les enfants. Et quand ils se développent, c'est bien. Oui, elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup descendre sur les toboggans, monter sur les poutres.
Je m'appelle Karine Louette, je suis assistante maternelle depuis 11 ans. Pour eux, c'est un plus grand espace. Et puis, il y a la sociabilisation, de voir d'autres enfants, d'autres adultes. Pour moi, c'est participer un peu à changer aussi de ma maison. Parce que chez moi, c'est bien, mais ça change aussi. Puis avec les collègues et tout ça, donc on échange des choses. Si on a des difficultés, c'est important.
Et là, je suis avec Valentine et Gabriel. C'est pour que les enfants puissent rencontrer d'autres enfants et puis que nous aussi, d'autres assistantes maternelles, et puis découvrir d'autres lieux, d'autres jeux et tout ça.
Prochain temps organisé pour les 0-3 ans et donc leurs parents ou leurs assistantes maternelles, le mardi 15 février à la salle du Tertre à Laval, mais aussi les vendredis 11 et 18 février à la maison de quartier d'Hilaire cette fois-ci. C'est sur inscription au 02 53 74 13 03. Ou à relaispetiteenfance@laval.fr. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les coordonnées des différentes associations ou instances qu'on peut donner, évidemment, toutes nos émissions sont à retrouver en podcast sur notre site l'autreradio.fr. Vous cherchez l'AGT du local et vous trouverez toutes les émissions et donc les contacts aussi à retrouver. C'est la fin de notre émission l'AGT du local, justement, pour aujourd'hui, mercredi. Merci beaucoup Andy, à demain.
Merci à toi, oui, on se dit à demain.
Et on se retrouve demain midi, évidemment, mais avant ça, à 19h, il y aura Novorama ce soir, suivi à 21h de Déclectic Jazz. Nous, on se retrouve demain à 12h15, je vous souhaite une très belle journée.